Bonjour. Donc nous sommes avec Léontine et Nati. Vous êtes coprésident de l'association Ornanciel qui organise cette journée des fiertés. Aujourd'hui nous sommes le 1er juin et il y a une journée des fiertés, une marche des fiertés sur Alençon. Donc c'est vous qui chapeautez, qui organisez tout ça?
Avec toute une petite équipe
avec toute
quand
une
même.
De 5, 7 personnes.
Ouais. Bon, et puis plus tous les bénévoles autour.
Il y a 5-7 personnes vraiment impliquées et pour la journée aujourd'hui, il y a une vingtaine de bénévoles. Au cours des au total, on est une vingtaine, je pense, à gérer tout ça.
Du coup, organisé sous couvert de l'association Ornanciel.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ancienneté de cette association et de ses missions?
Alors, l'association, elle existe depuis 2006. Elle a toujours eu pour mission de d'ouvrir à la communauté LGBTQIA+, que la communauté puisse se rencontrer, qu'elle puisse réfléchir à comment défendre ses droits, comment voilà, militer aussi pour la cause. Et nous, voilà, c'est depuis... nous, on y est depuis moins longtemps. Enfin, moi, ça fait 4 ans. Toi, Léo, ça fait
2 ans.
2 ans.
Ouais.
On s'affaire à faire marche des fiertés, autre événement, des apéros accueil tous les mois pour que la communauté puisse se rencontrer, des interventions en milieu scolaire.
Voilà, pour sensibiliser les lycéens, les collégiens. Et on fait aussi des interventions en milieu non scolaire. Donc là, cette année, on a sensibilisé les gendarmes de l'Inde, par exemple. On va aussi à la Croix-Rouge, on a sensibilisé les étudiants, assistants sociaux et d'UXP, puis toutes les structures qui nous sollicitent. On anime aussi des fois, il y a des villes ou des mairies qui nous appellent parce qu'ils organisent une projection d'un film à thématique LGBT. Et après, on peut, derrière, après le film, animer un petit débat. Par exemple, là, le 7 juin à Val-Frambert, par exemple. Il y a aussi la médiathèque de Flers qui nous a contactés. Voilà.
On fait aussi des accompagnements personnalisés quand il y a des personnes qui se sentent seules ou qui se posent des questions sur leur genre ou leur identité sexuelle. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est aussi une des grosses marques de l'association, parce qu'on est la seule association LGBTQIA+ de l'Orne, et on luttait énormément contre la solitude des personnes de la communauté, parce que c'est une vraie réalité dans ce département.
En particulier en milieu rural, où tout le monde n'est pas forcément connecté aux réseaux sociaux, donc ça peut être un peu compliqué de trouver des semblables. Et puis des fois, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur famille et qui ne savent pas trop à qui en parler. Donc si ils savent qu'on existe, ça fait un point de contact.
Ouais.
Et là, on a trouvé un local. Donc à partir de septembre, normalement, on pourra organiser des permanences d'accueil ou des peut-être nous-mêmes organiser des ciné-débats. On verra.
Ok, j'ai une petite question. Vous parliez un peu plus tôt d'intervention au milieu scolaire. Donc, tu me parlais de collège et lycée.
Oui.
C'est, je pense que tu le sais, c'est une question qui est un peu polémique, un peu clivante pour certaines personnes. Est-ce que tu as des choses à expliciter là-dessus?
Alors, on intervient. Déjà, l'association Ornanciel intervient sous agrément. On a un agrément de l'État pour intervenir sur ce genre de sujet. Et on intervient dans le cadre des programmes scolaires parce que les collégiens et les lycéens, dans leur programme scolaire, ils ont un module qui s'appelle éducation à la vie sexuelle et affective, qui comprend toutes sortes de thématiques, dont l'éducation au, en fait c'est plus au LGBT phobie, à l'homophobie, et aussi pour discuter avec les élèves qui ont beaucoup de questions sur ces sujets-là, simplement répondre à leurs questions et les rassurer, parce que des fois ils sont un peu inquiets sur certaines choses, et puis on discute, et comme ça permet de répondre, de clarifier et de retirer des angoisses infondées.
Ouais, donc en fait,
ou des suppositions toutes bêtes, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur Internet, sur TikTok, donc c'est bien aussi de dire non, ça c'est des bêtises, ça c'est vrai, mais les gens sont... Voilà.
Donc ouais, l'angle d'approche, c'est surtout vous répondez aux questions que les collégiens lycéens se posent, vous venez pas pour, je vais être super trash, leur apprendre à se masturber ou je ne sais quoi, leur apprendre des pratiques, c'est pas le... On est bien d'accord.
Non, on fait pas ça.
Alors, je suis désolé, mais je sais qu'il y a des gens qu'il faut rassurer, je sais pas si c'est le cas de nos auditeurs.
Alors,
mais...
Non, de toute façon, les établissements n'autoriseront jamais ça, ça n'arrivera pas, non, clairement.
Voilà,
et puis c'est clairement pas du tout le but de tout ça. Non, non, au contraire, c'est vraiment sensibiliser sur la discrimination qui peut y avoir. Voir sur les LGBT-phobies.
Et il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire dans chaque classe, quand on va, il y a des enfants ou des jeunes au lycée, c'est moins des enfants qui se questionnent sur eux-mêmes, qui ont des questions et qui n'osent pas forcément parler en famille, qui ne savent pas où trouver des ressources. Et quand on vient, on leur dit voilà, les homosexuels ça existe, les trans ça existe, ils sont sujets à discrimination, ce mot-là, PD, c'est mieux si tu ne l'utilises pas, enfin, etc., etc. Et aussi leur expliquer qu'est-ce que c'est une personne trans, des choses très basiques. Et cet enfant-là ou ce jeune-là, il nous voit et il sait que du coup, Ornanciel existe. Et c'est. Franchement, dans chaque classe, il y en a toujours un ou une qui vient nous voir à la fin, un peu en cachette comme ça, ou après ils nous contactent via les réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ces enfants-là, enfin ces jeunes-là, qu'on va dans les classes, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà.
C'est fondamental parce que si ça peut éviter aussi
des
cas de suicide, de dépression profonde chez l'adolescent qui est déjà une problématique très présente, c'est primordial justement qu'ils aient ce soutien-là en milieu scolaire.
Bah c'est comme avait dit Johnny, il n'y a pas très longtemps, notre secrétaire de l'asso qui chapeaute un peu toutes les IMS avec nous. C'est qu'en fait, il y a quand même 6 fois plus de cas de suicide chez les jeunes trans que les jeunes cis.
Et en fait, 4 fois chez les jeunes LGB.
Et 4 fois plus chez les jeunes LGB.
Alors, en fait, juste vite fait, qu'est-ce que c'est que cis et trans? Trans, je pense que beaucoup de gens savent à peu près ce que c'est, des personnes qui changent de sexe, au moins à l'état civil.
Alors, qui ne changent pas de sexe, qui changent de genre.
Qui changent de genre.
Voilà, parce que. Effectivement, on n'ira pas vérifier s'ils ont vraiment changé de sexe ou pas. Donc, on dit changement de genre. Voilà, petite nuance là-dessus.
Voilà. Mais c'est important de nuancer parce que... Voilà, vous avez les outils et le vocabulaire que nous, on n'a pas spécifiquement.
C'est ça. Mais il n'y a pas de mal quand on ne sait pas. Enfin, c'est normal. Voilà. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui est au courant non plus. Justement, nous, on fait ces interventions-là, notamment pour éviter que des personnes aient des propos déplacés, en fait, sans le vouloir.
Voilà. C'est pour ça qu'on est là aussi.
Ou même pour mieux comprendre, notamment les personnes trans, il y a beaucoup de questions, parce que c'est un petit peu étrange, parce qu'il faut se rappeler que l'énorme majorité des gens ne sont pas trans et sont ce qu'on appelle cis, C-I-S. Donc, la plupart, la majorité des gens sont cis et de temps en temps il y a des personnes trans et ces personnes trans ont une vie très compliquée, incroyablement dure et il y a beaucoup de violence envers elles, donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour les défendre, bien que ce soit une minorité, mais une minorité très très discriminée.
Et du coup cis,
c'est... Cis chez les autres, c'est ceux qui sont pas trans.
En fait c'est quand le sexe assigné à la naissance correspond à son genre.
Voilà, c'est si le sexe biologique en quelque sorte correspond au genre ressenti et exprimé.
Ouais.
Donc vraiment la majorité des personnes.
Voilà.
Et on ne peut pas convertir quelqu'un pour devenir trans ou homo ou bi ou quoi, c'est quelque chose...
Ça n'existe pas.
Non, faut s'enlever ça de la tête.
Tout comme on ne peut pas convertir quelqu'un qui est homo, on ne peut pas le rendre hétéro, ça ne marche
pas. Ça marche pas non plus.
Les thérapies de conversion qu'on a essayées pendant des siècles, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas dans l'autre sens non plus.
Ça existe toujours ?
Oui.
Ah oui.
Ça existe toujours, ça a été très récemment interdit je crois en France, mais ça existe toujours...
Dans beaucoup de pays ça existe.
En Europe, aux États-Unis c'est encore très courant. Et en Europe, c'est interdit dans pas mal de pays, mais pas dans tous. Et puis, il y a aussi, au-delà des thérapies ou des électrochocs, il y a aussi des psychologues ou des psychiatres qui considèrent qu'il faut soigner la personne et qui font des thérapies douces, mais quand même hyper violentes. Enfin, si on veut.
T'as employé le terme d'électrochoc. Ça veut dire que dans certains cas, les psychiatres vont considérer qu'ils peuvent soigner l'homosexualité par électrochoc.
Ouais. Mmh. C'est une
expression. C'est bien l'utilisation de l'énergie électrique.
Ouais. Voilà. Ça a été interdit, mais ça a vraiment eu lieu pendant des années et des années.
C'est toujours aux États-Unis, ça existe
et
toujours.
Et aux États-Unis, ça existe toujours.
C'est d'une violence.
C'est des parents qui envoient leurs ados, leurs enfants, ou même des familles ils les internent là et les gens se font électrocuter. Et voilà, on espère. Enfin, genre, ça va les soigner, ça les traumatise. Voilà.
On a c'est pas drôle, mais on en rigole un
non,
peu
mais
aussi parce qu'on a
mais
besoin
c'est horrible,
de...
C'est hyper, c'est horrible, c'est hyper archaïque, c'est.
Bah c'est violent.
Comment est-ce qu'on peut se dire que ça peut être un traitement qui peut résoudre c'est même pas un problème en fait. C'est ça qui est incroyable.
Alors pour le
dire, c'est comme si on essayait de faire repousser une jambe à un amputé quoi. Faut arrêter les conneries.
Enfin, c'est exactement ça.
Mais pour le peu que j'en sais, je sais pas si on peut parler exactement d'électrothérapie. L'électrothérapie c'est autre chose qui est utilisée.
Les dépressions,
c'est plus douce.
Je crois.
Mais les traitements par électrochoc en psychiatrie ont été explorés pour tout un tas de choses et pas uniquement les problèmes liés.
Là, c'est plus pour essayer de. En fait, comment ça se passe, c'est qu'on présente des images homoérotiques aux gens et on les électrocute et on essaie d'éduquer le cerveau à avoir une réponse négative quand il voit par exemple deux hommes qui s'embrassent pour essayer de genre ça va guérir.
Ok.
Ça ne fonctionne évidemment pas. Ouais. Contrairement aux électrochocs où on pensait, mais ça c'était au 19e siècle, où si on reboot le cerveau en lui mettant une grosse décharge, et les gens vont arrêter d'être dépressifs par exemple. Ça ne marche pas. La lobotomie, ça ne marche pas non plus. Enfin, il y a plein de méthodes de merde.
Voilà. Les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder un film qui n'est pas sur le sujet directement et qui s'appelle Orange Mécanique, mais qui parle du traitement mental de. Alors pour le coup, c'est de gens qui sont très versés dans la violence.
Mais ça
et je vais vous spoiler la fin. On voit que ce traitement ne fonctionne pas.
Voilà.
Est-ce que on peut parler un petit peu du milieu du travail? Comment est-ce que là, est-ce qu'il y a des difficultés à intégrer justement la communauté LGBT dans le milieu du travail? Est-ce qu'il y a des cadres professionnels qui sont abusifs face à l'homosexualité?
Oh bah oui, comme partout, hein. Ça, y a la discrimination LGBTQ+, elle est partout et dans beaucoup de corps de métiers différents. Il y a eu des grands articles qui étaient sortis justement sur la discrimination présente dans les gendarmeries ou les postes de police.
Ouais.
Ça avait fait beaucoup de bruit pendant un moment parce qu'en fait on n'en parle pas et que justement c'est aussi un fléau qui est derrière.
Après, si je prends mon exemple personnel, moi je l'ai vécu. J'avais un premier emploi où les patrons ont appris que j'étais lesbienne et ils pouvaient pas me virer parce qu'on peut pas tellement virer les gens pour ça, mais du coup ta vie devient insupportable au travail, tu finis par démissionner. Et
ouais.
Voilà, ça a commencé à partir du moment où ils ont su que j'étais lesbienne. Voilà.
D'accord, à l'inverse, excuse-moi, t'as peut-être pas terminé.
Non, c'est tout.
Est-ce qu'à l'inverse, vous avez identifié des cadres, des professions, des je ne sais quoi qui sont faciles pour.
En fait, c'est pas tellement un corps de métier, c'est plutôt avec qui tu travailles, parce que tu peux très bien, même si on prend un métier cliché, mais ton coiffeur, il y a beaucoup, disons, d'hommes gays dans les coiffeurs, mais tu peux très bien tomber sur un chef de salon de coiffure hyper homophobe, ça existe. Et par contre, d'autres métiers qui, a priori, genre, je sais pas, les pompiers ou même la police, on peut tomber, ou la gendarmerie, par exemple, à Alençon, on est tombé sur des unités qui avaient l'air plutôt ouvert d'esprit. Donc en fait, c'est vraiment plus qu'un corps de métier, c'est vraiment les personnes avec qui on travaille. Après, ce qui reste vrai, c'est que beaucoup de personnes homo ou trans cachent un peu, font attention à qui ils le disent ou disent pas. Moi maintenant, je le dis systématiquement quand je passe un entretien d'embauche. Je fais allusion à ma compagne, parce que comme ça, la personne en face, elle sait qu'elle embauche et je pourrais pas, si elle veut pas m'embaucher, elle m'embauche pas. Et j'ai pas besoin de me retaper le cirque que je me suis farci la fois où je me suis fait dégager pour ça. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le cachent. Après,
le cache.
Ça, il n'y a pas de corps de métier particulier là-dedans ou quoi. Hein. S'il y a bien une chose aussi que nous apprend notre communauté, c'est qu'il faut arrêter de faire des généralités parce qu'en fait, c'est partout.
Moi, j'avais une copine sur Paris qui bossait dans une grosse boîte de pub. Et justement, les personnes pensent que dans les milieux créatifs, justement, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit. Pas du tout.
Non, ça, c'est
pas du tout. Et elle s'est retrouvée dans la même situation que toi, Léontine, justement, à subir du harcèlement moral jusqu'à ce qu'elle décide de démissionner. Parce qu'elle était rentrée en dépression profonde et elle a dit non, c'est pas possible en fait, je peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'était dans une boîte de com. Ouais.
Et moi je travaille dans le droit, donc c'est ultra rigide. Et par exemple, là où je travaille maintenant, bah, comme je l'avais dit à l'entretien d'embauche, j'étais embauchée, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est très très. Les gens sont très sympas, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est vraiment le cadre en fait, plus que la profession.
Ouais.
D'accord. Au sujet de ces violences, qu'elles soient morales ou, dans le pire des cas, qu'elles soient carrément physiques, j'ai entendu qu'il y avait un retour là-dessus, il y avait un regain de ces violences. Moi, je commence à être plutôt jeune et j'ai vécu dans une société qui était, quand j'étais jeune en tout cas, c'était très ouvert là-dessus et ça venait de moins en moins un sujet, les questions LGBT, parce que c'était admis. Et il y avait de moins en moins de violence. Et là, il semblerait qu'il y en ait de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez comme information?
Il y a différents rapports européens et français émis par plusieurs structures ou associations qui comptent une augmentation de 28% des violences LGBT-phobes.
Sur quelle période cette augmentation?
Sur les deux ou quatre dernières années, je ne sais plus exactement.
C'est quelque chose comme ça.
C'est un rapport qui sort. Alors, le rapport européen, c'est tous les 4 ans, le rapport français, c'est tous les 2 ans, mais les deux coïncident. C'est une augmentation de 28%. Ça, moi, je pense que ça correspond aussi, parce qu'on a une montée globale, en tout cas en Europe et aux États-Unis, d'une montée simplement de l'extrême droite, et avec les idées réactionnaires et discriminantes de l'extrême droite. Je pense que c'est un climat qui favorise, du coup, pareil, envers les LGBT, mais aussi envers les femmes ou les personnes racisées. Enfin, c'est un climat global, en fait.
Alors, je me permets de préciser un tout petit peu, parce que je me fais le mec faussement naïf, mais je me suis renseigné avant de venir. Pour ce que j'en ai lu, ces 28% concernent des violences physiques, qui sont, à mon sens, plus graves. Je ne veux pas minimiser les violences morales, mais qui sont encore plus graves, à mon sens. Enfin, 28% d'augmentation des violences physiques.
Oui, parce que voilà. C'est celles pour lesquelles on va porter plainte. C'est-à-dire que si on devait porter plainte à chaque fois qu'on se fait insulter, ou là, sur Internet, qu'il y a des propos homophobes qui sont tenus, bon, je pense que les compteurs de plaintes exploseraient. Donc, effectivement, celles qu'on peut quantifier, c'est les violences physiques, mais qui sont la pointe de l'iceberg.
Et c'est vrai que là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Faut avoir conscience aussi qu'on en entend de plus en plus parler. Donc c'est bien, ça se développe quand même beaucoup plus. Les droits avancent dessus, mais on est encore vraiment loin d'atténuer les violences dessus. C'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y a moins de violences.
C'est ça.
Faut pas oublier ça non plus.
T'as parlé vite fait d'Internet, donc moi je vais rebondir dessus. En me couchant hier soir, je flânais sur Facebook et je suis tombée sur la republication de l'article de l'Orne Hebdo pour la marche des fiertés. À ma grande stupeur, j'étais très énervée parce que j'ai pu lire les commentaires du coup d'Alençonnet, puisque c'est relayé sur une page locale, c'est un média local, donc la plupart des gens qui ont commenté sont des Alençonnets ou aux alentours d'Alençon, d'une violence extrême. J'ai trouvé ça aberrant. On en est même rendu à un stade où il y a une personne qui a commenté qu'il fallait nettoyer les rues. On en fait quoi de ces commentaires-là ?
Il faut les signaler parce que c'est un délit. En France, l'homophobie et LGBT-phobie sont passibles de poursuites, on va dire, en tout cas d'amende. Et donc, ça veut dire qu'une incitation à la haine, comme ça, où il faut nettoyer les rues, c'est interdit. Donc ça se signale et la personne peut être sujette de poursuite. Sujet à poursuite. Hein.
Donc voilà, soyez conscients que si vous déversez de la haine sur Internet, vous pouvez aller en prison et payer une grosse amende. Voilà, ne faites pas n'importe quoi sur Internet. Ce n'est pas un déversoir à merde. Voilà.
Bah, c'est illégal. On n'a pas le droit de tenir des propos incitant la haine, que ce soit raciste, sexiste ou homophobe. Point. Voilà. C'est pas une opinion. C'est un délit. En France, c'est un délit.
Autre question. En tant qu'hétérosexuel, comment est-ce que nous, on peut aider ? Comment est-ce qu'on peut soutenir, nous, de façon personnes hétéros qui ne sont pas complètement intégrés à cette cause, qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la cause ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?
Alors, déjà, les personnes hétéros qui soutiennent le mouvement, elles ont un nom, elles font partie des lettres LGBTQIA+. Elles sont dans le A, bon, il y en a plusieurs des A, mais on les appelle les alliés.
D'accord, voilà. Ok.
Et à partir de là, les alliés sont les personnes qui se représentent comme hétérosexuelles, qui soutiennent le mouvement et qui défendent la cause avec nous. Et après...
pour défendre les personnes LGBT, ça peut être des petits gestes. Par exemple, si on voit un commentaire comme ça, on peut le signaler. Pour revenir sur l'article de Orne Hebdo, mais c'est aussi au quotidien, si vous savez que telle personne est homo ou trans, c'est simplement ce que je dis souvent aux collégiens, aux lycéens par exemple. Si vous sortez ensemble au cinéma, vous allez voir un film et en groupe de filles, et vous avez une des filles, vous savez, elle est lesbienne. Bon, vous sortez du cinéma, vous discutez entre vous, ah les acteurs ils étaient trop beaux, nanana. On peut aussi du coup penser, ah mais elle préfère, il lui demandait, ah, alors quelle actrice t'as trouvé chouette toi, enfin laquelle t'as trouvé jolie. Et comme ça on inclut la personne, enfin donc ça c'est pour des jeunes, mais pour des personnes plus âgées ou dans le cadre professionnel, on sait qu'il y a une personne qui s'est demandé des nouvelles de son compagnon ou de sa compagne. Enfin, des questions en fait qui incluent la personne dans une conversation de tous les jours.
C'est ça, voilà. C'est les intégrer en fait, les intégrer de manière banalisée. Voilà, rendre la chose tout à fait normale et c'est ok et c'est cool. Et il faut pas hésiter non plus à poser des questions.
Ouais, ça c'est vrai.
Ça c'est très important aussi. Une personne qui va être non binaire ou qui a fait une transition de genre, n'hésitez pas à lui demander il, elle. Comment tu te nommes, Yel, peu
voilà,
importe,
ouais.
La personne ne sera pas offusquée et préférera de toute façon qu'on lui demande.
Voilà.
Et pareil, si vous rencontrez une personne qui dit bonjour, je m'appelle Jeanne, Mais vous dites, ouais, c'est bizarre, Jeanne, elle ressemble plutôt à un Jean, on va dire. Peu importe si la personne se présente en étant Jeanne et qu'elle dit, bon, moi, mon pronom, c'est elle. Si vous, toute la journée, vous l'appelez Jean, il, ça va rien changer sur comment cette personne se ressent. Par contre, ça va faire une relation, une interaction pourrie, quoi. Toute la journée, ça va mettre une mauvaise ambiance et ça sert strictement à rien parce que c'est pas votre petite agression et votre petit, ah non, moi, je dirais pas Jeanne parce que moi, je dis Jean, qui va changer quoi que ce soit. C'est juste que tout le monde va passer une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou une mauvaise année. Donc, c'est des petits détails qui font qu'on peut, en tant qu'hétéro, simplement suivre les choses et pas se sentir aussi. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sentent un peu attaqués ou un peu agressés en disant, oh là là, c'est quoi ces gens qui changent de genre maintenant, tout part à volo, on sait plus qui est femme, qui est homme. Non, c'est pas ça, c'est juste une personne qui se ressent différemment. C'est une différence qui est difficile à comprendre quand on la vit pas. Par contre, ça s'accepte et puis c'est pas grave. Ça veut pas dire parce qu'il y a une personne trans que tout à coup, vous, parce que vous interagissez respectueusement avec cette personne, vous allez devenir trans. Ça n'a rien changé au quotidien.
Bon, est-ce que ça vous choque si je vous dis que dans mon quotidien, globalement, je m'en fous, ces personnes, pour l'histoire des pronoms, moi j'ai envie de me détendre un peu, parce que cette personne, si j'échange avec elle, je vais surtout lui dire tu ou lui dire vous, selon les contextes. Donc là, c'est que ce soit un homme ou une femme, qu'elle se sente femme ou homme, je dirais tu, je dirais vous, il n'y a pas de pronom spécifique. Ouais. Considérant que je m'en fous et que c'est pas un sujet pour moi, c'est le cas, je pense, de pas mal de personnes. Bah peut-être j'en parle juste pas parce que je vais plus m'intéresser au foot ou à d'autres sujets.
C'est juste s'il y a doute, n'hésitez pas à demander parce que voilà, si on peut éviter de mégenrer les gens, c'est mieux.
Ouais.
Et puis de toute façon, enfin, même nous, ça nous arrive de nous tromper des fois quand on nous a dit ah c'est elle, et des fois d'un seul coup tilt, ah est-ce que tu pourrais, bon c'est vrai que là c'est tu, mais
ben, voilà, de le
genrer au masculin et ah mince, pardon. Et enfin, c'est pas grave de se tromper. C'est même il y a des personnes qui font leur transition de genre et qui se trompent encore sur leur propre genre aussi. Ça arrive aussi. Enfin voilà, il y a pas de, c'est pas ultra clivé, mais tant qu'on a l'attention pour, ça sera toujours extrêmement apprécié.
Voilà.
Et effectivement, le stade ultime et le stade parfait, c'est que tout le monde s'en fiche. Et
ouais,
ça serait bien.
Ça, c'est super.
Mais malheureusement, comme on le voit, il y a quand même beaucoup d'insultes et donc tout le monde ne s'en fiche pas. Voilà. Et c'est là où nous on voilà, y a des gens qui portent une attention très très négative, voire insultante, voire violente. Donc l'idéal, c'est tout le monde s'en fiche. C'est l'idéal, c'est pas encore là où on est aujourd'hui.
D'accord, alors à ce sujet, il y a des endroits, sans rentrer trop dans les détails, je pense à des festivals qui se posent des questions là-dessus. Et la question est, l'une des questions est de savoir s'ils doivent mettre en place des quotas pour des personnes LGBT qui interviendraient, hein, qui seraient des artistes qui viendraient se produire en festival. Ouais, donc pour des personnes homo, bi, trans, etc. Est-ce qu'on doit mettre en place des quotas ou pas? Est-ce que vous avez un positionnement, vous, là-dessus? Est-ce que vous avez entendu parler de gens autour de vous qui ont un positionnement là-dessus? Lequel? Et pourquoi?
C'est l'éternelle question des quotas. Alors les quotas, ça commence aux États-Unis avec les quotas de personnes noires dans les institutions. Il y a maintenant des quotas de femmes dans nos institutions en France, des quotas de personnes LGBT. Alors, on pense qu'on veut des quotas, mais indépendamment de ça, c'est que quand on est une personne noire ou une femme, disons que ça se voit. Donc on peut assez visuellement implanter des quotas si on pense que c'est une bonne idée. Pour les personnes LGBT, c'est un peu plus compliqué parce que ça se voit pas toujours et certaines personnes LGBT ne le disent pas qu'elles le sont. Donc en fait, instaurer un quota, ce serait juste instaurer un quota pour des gens qui seraient sortis du placard et qui s'affirmeraient en tant que tels. Mais un festival de musique, je sais pas s'il y a plein d'artistes qui se produisent, même si certains artistes peuvent être gays ou trans, mais on le sait pas. Donc ils seraient inclus ou pas dans le quota, ce serait un tout petit peu plus compliqué à mettre en place. Indépendamment de la question de si c'est bien ou pas, là-dessus, moi personnellement, j'ai pas d'avis du tout parce que j'ai lu des trucs pour, des trucs contre, voilà, j'ai aucun avis sur la question. Ordinaire non plus,
on sait jamais.
On n'a pas de positionnement particulier là-dessus.
C'est intéressant ce que tu dis, Léontine, parce que justement, nous en tant que radio, c'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé auprès de la fédération. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, la fédération pourrait se dire, en effet, les artistes musicaux peuvent être LGBT, mais ne le spécifient peut-être pas automatiquement dans leur communication. parce que voilà, on a été plus ou moins questionnés par rapport à le nombre de diffusions de titres et d'artistes LGBT. Sauf que voilà, là tu viens de soulever un truc qui est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, on diffuse ou on ne diffuse pas, mais ils ne communiquent ou communiquent pas justement sur, parce que en même temps, moi je vais ramener ça à la cause du handicap puisque ça me concerne aussi. Tu peux être chanteur et amputé, tu vas pas automatiquement faire la promo de ton handicap en fait.
Ça dépend si t'es dans une attitude militante ou pas. Par exemple, si on prend des artistes français comme Oshi ou Eddie De Preto qui sont dans une démarche militante, eux ils vont l'afficher, le dire parce qu'ils sont dans une démarche militante. Mais il y a d'autres artistes qui sont pas du tout dans une démarche militante, qui font leur musique et qui ne le disent pas, et ça se sait parce que on le sait, ou alors ils le disent peut-être juste dans une interview comme ça vite fait, mais ils en font pas une, c'est pas des militants, voilà, c'est des,
ouais, voilà,
et ça c'est une attitude personnelle qui, voilà. Il y a pas de jugement sur le militantisme des gens, enfin voilà quoi.
Mais ça c'est plus, voilà, ça serait plus sur cette question là sur la question du quota, du militantisme là-dessus, qui serait plus intéressant à voir. Et on le voit de plus en plus aussi dans beaucoup de festivals. Il y a des brigades safe,
ouais,
qui se mettent en place un peu partout pour que toute personne aussi qui sont persécutées pour des LGBT-phobies ou autre discrimination, bien sûr, puisse se sentir à l'aise et bien avec ces gens-là, quoi. Et ça, pour moi, ça a plus d'importance.
Ouais. Ouais, mais complètement, c'est hyper légitime. Et puis, toute personne, quel que soit le genre, subit des violences. Enfin, on l'a vu sur le Hellfest l'année dernière, où il y a eu pas mal de cas de nanas qui ont été un petit peu malmenées et droguées à leur insu, malheureusement.
Ouais. Ok, d'accord. Ok, très bien. Encore aujourd'hui.
Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez clôturer un petit peu sur ce qui va se passer aujourd'hui ?
Alors, programme de la journée. Donc là, à 14h, on va ouvrir le village associatif. Il y a 5 assos qui seront là, plus buvette, stand de restauration et maquillage. À 15h, départ de la marche de la Providence. On fait un tour dans Alençon, on revient à la Providence. Pendant la marche, il y aura 2 prises de parole. Une.
En tout cas, une, peut-être deux. Encore décidé, voilà, on est très en avance.
Et du coup, sur la déambulation, il y aura DJ set aussi pour rendre la chose un peu plus festive.
Trop bien.
Avec DJ Aurélian. Et ensuite, retour de la marche, vont s'enchaîner concerts, DJ et drag show. Donc, à 16h45, il va y avoir le groupe 92. À 18h, il y aura Maddy Street. À 19h, le drag show avec la compagnie Label Rouge. À 20h, c'est DJ Carambolage. Et à 21h, DJ Skiv. Et à 22h, on termine sur les lieux. Et hop, Zouplago, direction le Bibar pour l'after.
Yeah! C'est trop bien!
Qui d'ailleurs nous fait des prix préférentiels pour les personnes qui viennent de la marche. Donc on distribuera des petits rubans pour que les gens aient leur consommation à prix préférentiel. Voilà.
Deux petites questions pour ma part. La première, qu'est-ce que c'est qu'un drag show?
Alors le drag show, c'est un petit peu, disons, popularisé. C'est des artistes qui créent un personnage outrancier, très maquillé, souvent féminin, pas toujours. Parce que drag, ça veut dire dressed as a girl, drag, ouais. Alors il y a les drag queens, c'est les personnages féminins, et les drag kings, c'est les personnages masculins. Et donc c'est des personnages outranciers qui sont exagérément féminins ou exagérément masculins, et après ils font un truc sur scène, ils chantent, ils dansent, voilà quoi, c'est du spectacle. Et c'est issu de la culture queer LGBT. Voilà, donc ça fait. Mais ça a été très très popularisé maintenant avec des shows comme RuPaul Drag Race, hein, des trucs comme ça. Genre il y a 20 ans, personne ne savait que ça existait, puis maintenant c'est très commun.
D'accord, merci. Une dernière question. Je vois que vous avez choisi en logo une pieuvre. Pourquoi la pieuvre?
C'est Nathalie qui l'a dessinée.
C'est pas le logo. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a décidé d'avoir un peu cette charte graphique pour la Marche des Fiertés. Un animal coloré avec les lettres tout du long là qu'on peut voir. On est parti sur un animal parce que voilà, on va arrêter de se baser sur l'humain, et puis en fait juste on a des sentiments, on a envie de vivre comme on est, etc. Les animaux ont n'ont pas ou peu de jugement les uns envers les autres. Bon, ça dépend sur quoi, bien évidemment. Mais voilà, c'était un peu pour se détacher de la vision humaine de la chose dessus. La première qui avait été faite, c'était un lion, parce que l'idée, c'était de représenter la fierté.
On rappelle, c'était très très beau celui-là.
Et en fait, chaque année, du coup, on change d'animal pour, voilà, histoire d'avoir un peu tout le monde, enfin, mammifères marins, près dans le désert ou quoi que ce soit, oiseaux et compagnie. Et jusqu'ici, on a fait lion, louve, paon et la pieuvre. Pourquoi la pieuvre cette année? Parce que, inspiré par le monde marin, et puis aussi parce que la pieuvre est reconnue pour son intelligence émotionnelle. Et c'est très agréable à dessiner d'ailleurs une pieuvre.
Et je sais qu'on a besoin d'intelligence émotionnelle aujourd'hui. Hein.
Si par contre, si après des gens ont des idées pour les prochaines années, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou nous contacter via les réseaux pour proposer vos idées.
Donc vous pouvez suivre bien sûr Ornantiel sur Facebook et Instagram, au nom de Ornantiel, voilà, tout simplement. Et donc il y a toute l'actualité sur leur réseau, toutes leurs initiatives aussi qui sont mises en avant. Donc Léontine a repris les réseaux dernièrement, elle gère ça d'une main de maître. Et voilà, non mais n'hésitez pas à les suivre. Si vous avez des questions, contactez-les, ils sont adorables. Ils ont bientôt leur local où ils pourront vous accueillir. Ouais.
On aura un site internet aussi, on travaille un peu à s'ancrer dans le réel, à mieux communiquer, mieux exister, parce qu'on n'est pas très connus. Et à chaque fois qu'on rencontre une institution ou un truc, ils sont « Ah, c'est vrai, donnez-nous des flyers !» Voilà. Donc, effectivement, réseaux sociaux.
On y travaille.
On a une adresse mail aussi qu'on peut trouver sur notre Facebook, qu'il faudrait qu'on mette sur Instagram. Écrivez-nous.
Mais voilà, ça peut être, c'est hyper important que tu sois parent et que tu te poses des questions, que tu sois enfant, tu te poses des questions, t'es ado, t'as un copain, une copine qui subit des violences à l'école... Voilà, contacte-les, ils sont là pour ça en fait.
Et puis de toute façon, tout contact restera anonyme.
Oui.
Voilà.
Ça c'est important aussi à rappeler.
Voilà, on ne diffuse pas les gens qui nous contactent, il n'y a aucun... On sait ce que c'est,
voilà, c'est ce que c'est
de vivre en tant qu'LGBT. Alors maintenant nous on s'assume, on est sortis du placard, mais on sait ce que c'est aussi de ne pas s'assumer, d'être dans des situations difficiles. On a tous un vécu, un passif, on a tous vécu des choses, donc on ne va pas balancer les gens. Par contre, si vous nous contactez pour nous insulter, bon, on peut vous répondre, hein, mais pas de problème. On a aussi des réserves comme ça.
Et n'oubliez pas que Léontine travaille dans le droit, du coup. Hein, donc, prenez vos précautions quand même.
Et on a été voir les gendarmes de l'Ain. Voilà. Donc maintenant, on est amis avec eux.
Mais non, ouais, le plus important surtout, c'est que si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vit une situation compliquée ou que vous-même, vous
avez des questions, simplement.
Vous avez des questions, contactez-les. Voilà, ils sont très ouverts, ils sont là pour ça, ils sont à votre disposition, ils ont le mérite d'exister, donc voilà, contactez-les. On vous souhaite énormément de bonnes vibes pour cette journée.
Super.
On va éloigner tous les connards aussi, il va y avoir un grand besoin de ça, et on va leur prouver que la communauté LGBT locale, elle se bouge, et bravo pour votre initiative.
Merci
beaucoup.
Merci pour cette interview.
Vous, ouais.